chanson pour Elvis par Diane Dufresne.
Ah!
C'est beau!
C'est une belle chanson. Oui. Tu m'avais demandé de faire jouer une chanson d'Elvis. Uh-huh. C'est juste que j'ai un petit peu de problème à faire jouer des chansons en anglais à notre antenne.
Très bien sûr.
Puis là, je me suis dit, ah, Diane Dufresne qui chante Elvis. Puis je trouve tellement qu'elle raconte le personnage. Et on n'en fait plus des mâles comme toi, Elvis. On en fait-tu des mâles comme toi, Serge? Ah, mais c'est vraiment... moi, cette phrase-là, cette parole-là dans cette chanson, je trouve qu'elle est encore plus d'actualité cette année, ces jours-ci, avec les mâles alpha, la masculinité toxique. Ah, j'adore. Mais Diane Dufresne, hein, c'est une visionnaire, hein, elle est encore. Alors, allons-y, on va parler d'Elvis.
Absolument. Alors, c'est un article que j'ai trouvé dans la revue Ça m'intéresse Histoire de l'automne dernier, automne 2025, un article de Ludivine Loncle.
Ludivine Loncle.
Oui, L-O-N-C-L-E. Alors, ce sont des fins solides, il y en a une douzaine. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tous les lire, mais en tout cas. Elvis avait un frère jumeau, saviez-vous?
Il me semble que j'avais déjà entendu parler de ça, mais ça fait trop longtemps.
Oui, c'est ça. Ben, Elvis disait « Parfois, je suis très seul. Je suis seul en plein milieu de la foule. » Malgré les millions de fans, cette solitude qu'évoque Elvis Presley aurait été sa plus fidèle compagne. À peine est-il né le 8 janvier 1935 à Tupelo dans le Mississippi qu'il en fait l'expérience. Mmh. 35 minutes avant lui, sa mère a accouché d'un bébé mort-né.
Ah non!
Jesse Garon, oui. Et le petit Elvis va grandir dans l'absence de ce jumeau qu'il n'a jamais connu, mais qui lui manque viscéralement. Est-ce qu'on sait que les jumeaux, hein, c'est très, très,
oui, il paraît,
c'est très fort?
Oui,
oui, oui. Oui. Heureusement pour l'entourer, il y a son père, Vernon, et Gladys, cette mère adorée qui ferait tout pour lui. Qu'importe si les Presley sont des ouvriers sans le sou, pour les 11 ans de leur fils unique, il aura une jolie guitare.
Ah!
Oui. Lui qui espérait un vélo se met vite à la musique pour plaire à maman. Et quand, en 1953, il enregistre son premier disque, My Happiness, c'est pour l'offrir en cadeau d'anniversaire à celle qui a toujours été sa meilleure amie. Mais, le 14 août 1958, Gladys meurt soudain d'une hépatite virale à 46 ans. Son fils anéanti ne s'en remettra jamais.
Oh.
Sa première télé lui vaut 600 000 lettres de protestation.
Ben voyons.
Oui, écoutez bien ça. Le 9 septembre 1956, les téléspectateurs du Ed Sullivan Show, l'émission phare de la chaîne américaine CBS,
tout à fait, oui,
en restent bouche bée. Ce rythme endiablé, ce son nouveau, cette gestuelle provocatrice surtout, Elvis, à 21 ans, crève l'écran avec « Don't be cruel », son tube du moment.
Ah oui, le déhanchement d'Elvis Presley. Ouais.
Une révolution musicale qui, depuis ses débuts en fanfare il y a 2 ans avec « That's all right, mama », secoue des États-Unis ségrégationnistes avec son « rockability », mélange exclusif de blues et de country. Alors forcément, les critiques fusent. Les Blancs du Sud lui reprochent de chanter comme un noir.
Ah oui?
Alors que les Afro-Américains de la Nouvelle-Orléans l'accusent de voler leur jazz.
Ah, la réappropriation culturelle, l'appropriation culturelle, oui.
La grogne est telle que son premier passage télévisé quelques mois plus tôt a valu au King 600 000 lettres de protestation, rien de moins. La scène angoisse ce grand showman. À un tel point que lors d'un de ses premiers concerts en juillet 1954 à Memphis, ses jambes se mettent à trembler. Oh!
Ben voyons, toi.
Oui, sauf que les groupies en redemandent, car ses déhanchés, bien qu'involontaires, sont sensuels.
Alors donc, quand il se déhanchait comme ça, c'était aussi causé par un souci de santé.
Oui.
Ah ben là, on en apprend une bonne.
Alors évidemment, les jeunes filles hurlent en transe, et leurs parents, de colère, le traitent d'obsédé sexuel, d'exhibitionniste. Ce King est le diable en personne, rien de moins.
Ailleurs.
On le surnomme même Elvis de Pelvis.
Ah ben oui, remarque que ça fonctionne, c'est drôle.
Référence à ses mouvements de bassin suggestifs, et les caméras de télé ne le cadrent plus qu'au-dessus de la ceinture.
Eh mon Dieu, que les choses ont changé depuis ce temps-là. Hein?
L'enfant terrible du showbiz n'en a cure et fera de ses pas sulfureux sa marque de fabrique. Je n'essaie pas d'être sexy, c'est juste ma façon de m'exprimer quand je me déplace. Et en réalité, il était blond. Eh oui. Si Elvis avait affiché sa blondeur, la face du rock en aurait-elle été changée?
Est-ce qu'il aurait été aussi adulé avec des cheveux blonds?
Car en vérité, le rocker à la banane noire avait les cheveux clairs, un joli blond cendré qu'il cache dès 1956 sous des teintures douteuses comme du cirage à chaussures.
Ça, j'avais entendu ça.
De passer en 1972 à une coloration digne de ce nom. Juste le... Avec du cirage de chaussures, j'espère que ça y prenait combien de shampoing pour s'enlever ça avant d'aller se coucher.
Ça devait tâcher les oreillers, mais je fais juste penser que si par hasard, il se gratte le fond de la tête, puis il y a les doigts tout noirs. Là. Ouais.
Le but de ça, c'était de coller à fond au look de Bad Boy, incarnation de l'esprit rebelle du rock'n'roll. Cette crinière gominée et noire de jet, c'est en effet autrement plus badass qu'une blondeur de bébé. Et parce qu'Elvis est l'idole des jeunes, tous les ados s'empressent de le copier. Il a même fait, Elvis, la promo de la vaccination.
Mmh.
Oui. Le 28 octobre 1956, Elvis, manche retroussée, se fait injecter devant des millions de téléspectateurs le vaccin contre la poliomyélite, qui était un fléau à l'époque.
Tout à fait.
Maladie grave et contagieuse qui sévissait alors. Et comme ce sérum n'est pas populaire chez les jeunes, les autorités de santé ont fait appel à la superstar du moment. Et bingo! L'opération de promotion réussit.
Ah oui?
6 mois après son passage télé, 80% des adolescents ont sauté le pas, quand il n'était que 1% auparavant.
Wow! Mais les vaccino-sceptiques, là, c'est pas nouveau ça non plus.
Non.
Rappelez-vous, ici, même à Montréal, la variole, les gens avaient même mis le feu à un hôpital où on donnait la vaccination.
Et cette vaccination a permis d'éliminer en 1979, la poliomyélite. C'est quand même à souligner. Il rencontre sa future femme quand elle n'a que 14 ans. Mais rassurez-vous, c'est resté quand même correct, là. Priscilla Beaulieu croit rêver. Elle, la fan anonyme, va rencontrer le King en personne. Nous sommes en septembre 59 et la jeune américaine vit avec ses parents en Allemagne de l'Ouest, là où Elvis effectue son service militaire. Et c'est un ami de la rockstar qui a fait l'intermédiaire entre Presley et l'adolescente, car Priscilla n'a que 14 ans, tandis qu'Elvis en a 24.
Ouais.
Cette différence d'âge n'arrête pas le chanteur qui s'imagine déjà épouser la demoiselle. Leur relation reste platonique. Sa promise doit rester vierge jusqu'au mariage, ce qui se fait le 1er mai 1967 à Las Vegas, et les noces seront vite consommées.
Et elle avait quel âge, Priscilla, à ce moment-là? Probablement 18 ans, n'est-ce pas?
De 59 à 67, elle était rendue à...
À 18.
Ouais, elle est adulte. Là.
Ouais.
Et 9 mois plus tard, exactement, Lise Marie naît. Le 1er février 68.
Ils n'ont pas chômé?
Non. Ouais. Et Elvis est un papa gâteau avec sa fille unique, mais aussi un mari jaloux qui façonne sa femme à sa convenance, la trompe et ne veut plus d'elle depuis qu'elle est mère.
Ah, mon Dieu.
Au bout, Priscilla obtient le divorce en 73. Elle aurait été la seule Madame Presley. Les autres ont été des compagnes.
Ah, les paroles de Diane Dufresne, on n'en fait plus des mâles comme toi, Elvis. Moi, je pense qu'on en fait encore pas mal, finalement.
Alors, c'est également un adepte du karaté.
Oui.
Il adore les ceintures, puis surtout les ceintures noires. Et en 58, alors qu'il fait son service militaire, Elvis se prend de passion pour le karaté. Et en à peine 2 ans de pratique, il obtient sa ceinture noire auprès du champion du Japon, Henri Slomanski. Et il va même jusqu'au 7e dan.
Quand même.
Ouais. Carrière d'acteur, pas une réussite.
Ah non, pas du tout.
Non.
On a tous vu les films d'Elvis. Bon, ouais.
Si les tubes d'Elvis sont restés dans l'histoire, ses talents de comédien, beaucoup moins. Le chanteur a pourtant tourné dans de nombreux films, pour la plupart tombés dans les oubliettes du 7e art. À son compteur, quand même, 31 westerns et comédies. Il en a fait beaucoup, hein? Avec qu'il enchaîne de 56 à 68 avec la même rengaine et un personnage taillé sur mesure, un gars sans le sou qui s'en sort grâce à la musique.
Ah oui.
Souvent médiocres, ces films font pourtant le plein et leur bande originale compte parmi les standards de Presley comme Jailhouse Rock et Love Me Tender. Sauf que l'acteur le mieux payé de son époque vise un rôle dramatique à la Marlon Brando. Il visait.
Ouais, visait haut.
Oui, c'est ma grande ambition, confie-t-il en 1960 à la télévision. Son rêve ne deviendra toutefois pas réalité et après une décennie de cinéma, Elvis Lassé mettra un terme à sa carrière hollywoodienne. Star planétaire, mais pourtant, il n'a chanté qu'en Amérique.
Arrête.
Ouais.
C'est incroyable comment est-ce qu'on ne se souvient pas de tout ça.
Non. Ouais. Nous sommes le 14 janvier 1973, et ce jour-là, le monde s'arrête de tourner. Devant leur télé, plus d'un milliard de personnes assistent en direct à Aloha from Hawaii, le concert du King à Honolulu. C'est plus que le nombre de téléspectateurs qui ont vu le premier pas d'un homme sur la Lune.
Ouais.
Grâce au premier show de l'histoire retransmis par satellite, les fans du monde entier peuvent enfin voir leur idole sur scène et pour cause, Elvis, cette star internationale, n'a chanté que 3 fois hors des États-Unis et c'était au Canada.
Bon.
De chez nous. Chanceux.
Ce que certains voient comme le 51e État.
Oui, oui, oui. Et il voulait devenir agent secret. Il avait même eu une rencontre avec Nixon. Et, mais malheureusement, ça ne s'est pas... ça s'est pas confirmé, non?
Oui.
Et il est mort sur un trône.
Ah bon?
Oui. Le 16 août 77, le duc du rock, 42 ans, vient de rendre l'âme et la planète entière a le blues. C'est Ginger Alden, sa petite amie du moment, qui a découvert Elvis gisant sur le sol de sa salle de bain. Il y avait des problèmes de santé. Hein. À quoi est-ce qu'il a succombé? À une overdose, lui qui se bourrait aux amphétamines et aux somnifères.
Mm-hmm.
À une arythmie cardiaque, cette malformation du cœur héritée de son père. À une constipation chronique causée par une paralysie des intestins, elle aussi génétique. 3 questions. Sans doute, un peu de tout ça ensemble. Ce jour-là, alors que le King tentait de se soulager sur le trône, ses problèmes de transit aggravés par la surdose de médicaments auraient déclenché l'arrêt d'un cœur fragilisé par l'arythmie. Mais ce n'est pas la théorie de certains fans. Selon eux, évidemment, Elvis serait parti vivre caché pour échapper à une célébrité devenue écrasante.
Ben oui, il travaille chez Burger King. Ben oui, il est encore vivant, Elvis. Fait que oui. Nous, on va tout de suite aller à la pause, puis on revient immédiatement avec toi, Serge.
Mm-hmm.
Et là, je vais me corriger parce que j'ai coupé un peu les coins ronds quand je parlais de Diane Dufresne, qui était visionnaire. C'est une chanson qui a été composée par Luc Plamondon. On vient de me le dire et c'est absolument vrai. Mais il n'y en a pas moins que de chanter cette chanson-là avec tout ce qu'elle a mis de son âme.
Ouais.
Et les paroles, je retiens toujours, on n'en fait plus des mâles comme toi, Elvis. Puis ça veut dire tellement de choses. Mais ça, c'est le génie de Plamondon, évidemment. On va continuer un petit peu sur Elvis.
Oui, en terminant pour Presley, l'Empire Presley, c'est un business toujours aussi rentable, même aujourd'hui.
Ah bon? Oui. Ouais.
John Lennon a dit, s'il n'y avait pas eu Elvis, il n'y aurait pas eu les Beatles.
Ah bon?
Eh oui.
Ah, c'est des... Ouais.
Un humble hommage au King, le Britannique n'est que le premier d'une longue liste à revendiquer l'héritage colossal du pionnier du rock'n'roll. Il y a aussi Bob Dylan et Amy Winehouse qui ont tous pour modèle Elvis. Et évidemment, Elvis est une source d'inspiration pour la pub, le cinéma, la télé. Mm. Même pour les paléontologues qui ont surnommé un dinosaure Elvisaurus parce que sa crête leur rappelait sa coiffure.
Puis il y a toute une industrie d'imitateurs d'Elvis aussi, tant qu'à faire.
Avec une telle influence, pas étonnant que l'Empire Presley soit aujourd'hui encore un business hyper rentable.
Ah ouais.
Les albums, depuis le début de sa carrière, Elvis en aurait vendu 1 milliard.
Wow!
C'est des albums, ça.
Ouais.
Il y a les livres, les produits dérivés. Près d'un demi-siècle après sa mort, la mégastar génère entre 30 et 50 millions de dollars chaque année. Et quant à sa villa de Graceland, à Memphis, elle est, avec 600 000 touristes par an, la maison la plus visitée des États-Unis, après la Maison-Blanche, évidemment.
Wow!
Ben ouais.
Mais ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent-là, ça va où?
Ça doit... Ben, il y a son héritière, les hommes à vie.
Probablement.
Ouais.
Mm-hmm. Allez, on va voir le nez dans les étoiles maintenant. On va parler des Perséides. J'adore ce temps de l'année.
Oui.
Puis je serai, moi, à Québec ce week-end et je pense que je vais aller faire un petit tour. Il y a un endroit aux plaines d'Abraham où il n'y a pas trop de lumière.
Oui.
C'est sûr que c'est un endroit qu'il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des gens peut-être moins bienfaisants ou bien pensants ou bienveillants, mais on peut très bien voir des étoiles filantes.
Mais j'imagine qu'il va y avoir tellement de monde que ça va être sécuritaire.
Tout à fait.
Ah, c'est un article dans la presse d'hier, un article de Mathieu Perrault sur les c'est une bonne année pour les Perséides.
Ah.
Alors, les étoiles filantes du mois d'août sont de retour et cette année, les conditions sont particulièrement bonnes avec une lune très peu visible et peu de nuages prévus. Et alors, voici comment les observer. Les nuits les plus favorables sont celles du 11 au 14 août. Avec un maximum d'intensité prévu dans la nuit du 12 au 13 août, ce soir.
Oui.
Cependant, il se peut que des orages et des averses rendent l'observation difficile ce soir-là dans la région de Montréal. Je fais juste une petite parenthèse. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a une éclipse partielle de soleil aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Et ne regardez pas ça directement, là. Ça prend
Mais je pense qu'on ne le verra pas beaucoup ici. C'est plus en Espagne qu'il
Oui,
le
mais
voit,
ça prend quand même les lunettes
Ah, tout
ici.
À fait.
Absolument.
Oui.
À cette année, Il y a l'avantage supplémentaire qu'il y a moins de fumée d'incendie de forêt au Québec que d'autres années, indique Loïc Quenel, communicateur scientifique au Planétarium de Montréal. Les perséides ont l'avantage de durer plusieurs jours. Pour d'autres pluies de météores, le maximum dure seulement une ou deux heures, mais pour les perséides, ça dure la nuit au complet.
Ah bon?
On peut les voir les soirs avant et après le maximum, explique M. Quenel. Alain Préfontaine, membre du Club d'astronomie Mont-Tremblant, rapporte qu'il a observé les perséides vendredi dernier. « J'en ai vu cinq pendant la soirée, nous dit-il. Bon, ce n'est pas le maximum possible de 80 à l'heure, mais ça montre bien qu'on peut en voir facilement n'importe quel jour cette semaine. » Si les conditions sont bonnes, évidemment, toujours. Son club organise sa principale activité pour le public sur les perséides le 14 août. Où faut-il se placer? Si on évite la lumière directe, on devrait être capable d'en voir, selon Loïc Quenel. La recette magique pour voir les perséides est un lieu dépourvu de pollution lumineuse et l'horizon la plus dégagée possible, résume-t-il.
OK.
Si on ne peut aller à la campagne, qui serait l'idéal? On peut choisir un parc urbain, donc...
Le Mont-Royal, peut-être, ou le parc La Fontaine, ou les plaines d'Abraham à Québec, oui.
Alors, mieux vaut s'éloigner des lampadaires, conseille le communicateur scientifique. Lorsque les conditions sont parfaites, on peut apercevoir entre 60 et 100 étoiles filantes par heure.
Ah oui, je me rappelle d'avoir vu ça dans mon jeune temps.
C'est fascinant.
De toute beauté. Ah, oui. Puis à l'époque, on n'avait pas nos téléphones qui étaient capables de filmer à peu près tout. Mmh. J'avais un vieil appareil photo, j'ai essayé de prendre des photos, mais ça n'a rien donné. Là, on ne les voyait pas sur mon argentique. Mmh. Mais c'était absolument fabuleux. Je trouve ça, c'est un émerveillement parce que tu dis, la nature te fait un spectacle comme ça. Là, c'est fabuleux, oui.
Alors, si on reste sur son balcon, près des lampadaires, peut-être qu'on va en voir 4 ou 5 par heure, dit M. Quenel. Si on reste 5 minutes sur le balcon, ça se peut qu'on n'en voit aucune.
Oui. Le risque. Oui.
Alors, d'où viennent les perséides?
J'aimerais ça le savoir, oui.
Voilà. Le terme étoile filante ne représente pas la réalité. Les perséides ne sont pas des étoiles qui bougent, dit M. Quenel. Ce sont des débris rocheux laissés par une comète dans un endroit du système solaire que la Terre traverse une fois par année au mois d'août. C'est un peu comme les flocons de neige qui foncent sur nous quand on roule en auto dans une tempête. Ils ne foncent pas sur nous, c'est nous qui allons vers les flocons.
OK.
Oui. La comète qui laisse ses débris rocheux, appelée Swift-Tuttle, le nom de la comète, met 133 ans pour faire le tour du Soleil. Quand cette comète s'approche du Soleil, la chaleur sublime la glace de sa queue et de sa surface, et ce qui laisse derrière elle des débris rocheux emprisonnés dans la glace. Alors, c'était le mystère.
Le mystère. Ouais.
Les débris rocheux restent là. Et la Terre traverse cette région, résume M. Quenel. Elles peuvent apparaître n'importe où dans le ciel, indique-t-il. Y aura-t-il des événements d'astronomie amateur? Ben, plusieurs. La Société d'astronomie du Planétarium de Montréal, SAPM, organise une soirée mercredi. Et c'est donc ce soir. Et on a aussi un événement sur Facebook, dit M. Quenel. Certains des clubs d'astronomie amateur font des événements seulement sur les perséides. D'autres aussi pour l'éclipse partielle de mercredi à 13h45, comme je disais tout à l'heure, dit Jasmin Robert de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, FAAQ. Est-ce que les perséides sont plus abondantes certaines années? Le retour de la comète Swift-Tuttle près du Soleil au début des années 1990 a offert quelques années de perséides particulièrement abondantes, avec plusieurs centaines d'observations par heure, rapportait la semaine dernière le site Space.com, une source fiable selon M. Quenel. D'après les calculs de l'astronome finlandais Esko Liitinen, L-Y-Y-T-I-N-E-N, mort en 2020, la Terre pourrait traverser un filament extra-dense de perséide en 2028, donc dans deux ans. Les prévisions pour 2028 varient beaucoup, de 200 à 300 à 1000 météores par heure. Ce serait beaucoup, hein?
Alors, on va sûrement prendre congé ces journées-là, puis se trouver un endroit pour les regarder.
Ouais. Ça, c'est ce que nous indique Alain Vézina, directeur de la SAPM. Et Alain Préfontaine, du Club d'astronomie Mont-Tremblant, a commencé à s'intéresser à l'astronomie au début des années 1990, quand les perséides étaient plus abondantes. Alors, chaque événement majeur en astronomie, on a plus de nouvelles personnes dans les clubs, dit-il, et ces dernières années, il y a beaucoup plus d'intérêt à cause de l'éclipse totale de 2024, qu'il y a eu 2 ans.
Oui, On était tous là avec notre petite lunette,
oui,
tu te rappelles?
Oui, oui, ben oui.
Écoute, je sais pas si on peut l'origine du nom Perséide.
Ben oui, je l'ai pas.
Tu l'as pas? Alors, non. Ça vient du grec ancien, Perséidaï, qui désigne les descendants de Persée. En astronomie, cette pluie d'étoiles filantes tire son nom du fait que les météores semblent jaillir d'un point précis dans le ciel, appelé le radiant, situé dans la constellation de Persée.
Ah, wow.
Et c'est Persée avec un S et non pas avec un C.
Oui.
Puis avec un deuxième E, juste pour être certain qu'on ne se trompe pas, parce que ça ne vient pas de Persée ou de la Gaspésie. Des brèves, on a du temps.
Alors, je continue toujours avec les Perséides.
Ah, OK, excuse-moi.
Oui, il y a des lieux, on peut voir. Les Perséides sont en cours depuis la mi-juillet et ce jusqu'au 24 août. Donc, c'est pas seulement ce soir, là, jusqu'au 24 août, mais dans la nuit du 12 au 13, là, c'est là vraiment qu'il faut se mettre sur nos télescopes, nos longues vues, tout ça. Puis, alors, où les voir? Parc national de la Jacques-Cartier. C'est à Stoneham et Tewksbury, au Québec.
Oui.
Le Parc national de la Jacques-Cartier organise tout l'été des soirées d'astronomie dans son amphithéâtre. Et loin de la pollution lumineuse, vous aurez la chance d'admirer les millions d'étoiles qui apparaissent dans le ciel obscur. Vous avez ensuite le Parc national du Mont-Mégantic dans les cantons de l'Est.
Ah oui, c'est magnifique ce parc-là.
Oui, c'est
vrai qu'il n'y a pas de pollution luminaire là-bas.
Oui. Alors, on ne présente plus ce parc national, là, tout le monde a entendu parler, avec son mont grandiose, c'est réputé pour l'observatoire, qui trône à son sommet et sa réserve internationale. Ensuite, il y a Au Diable Vert.
Ah, c'est ça, où ça?
Ça, c'est Glen Sutton dans les cantons de l'Est.
Ah bon?
Regardez, je vais vous montrer la photo. Ça, c'est l'endroit là, avec les sièges.
Oui, on dirait un auditorium en plein air.
En plein air, oui. Célèbre pour ses multiples hébergements rustiques et singuliers, refuges dans les arbres, pods, etc., la station de montagne Au Diable Vert offre une foule d'activités, dont une unique au Canada, le vélo volant. Récemment certifiée comme réserve de ciel étoilé, elle dispose également d'un planétarium extérieur, Observé Étoile. C'est un amphithéâtre 4 saisons de 180 places, donc 4 saisons, avec des gradins chauffés. Ce soir, vous êtes au chaud, même à l'hiver. Et c'est aménagé à flanc de montagne, avec même de la réalité augmentée. Il y a un guide par la narration d'astronomes talentueux et chaque adaptation nocturne est adaptée à la réalité changeante de la beauté de l'espace.
Ah.
Domaine Saint-Bernard, au Mont-Tremblant, dans les Laurentides.
OK.
Ouais. Situé à moins de 10 km du village de Mont-Tremblant, le domaine Saint-Bernard accueille à la fois les ornithologues, les randonneurs et les astronomes en quête d'un site retiré des grands centres urbains. Le domaine à ciel ouvert à Sainte-Agnès, dans Charlevoix. Ouvert en 2003, domaine à ciel ouvert d'Aco est un espace d'hébergement insolite situé dans le secteur de Sainte-Agnès, à 10 minutes du centre-ville de la Malbaie. Et il est ouvert à l'année 7 jours sur 7. Donc, on peut y aller.
Ah, ben, écoute, je suis dans le coin, moi, là. Peut-être que je vais prendre le taux de ma sœur. Je vais me trouver un petit endroit pour voir
la
ça.
La pourvoirie de Saint-Zénon,
ouais.
À Saint-Zénon, dans la Naudière.
Ouais.
Elle est située loin de la pollution lumineuse. Alors, la pourvoirie de Saint-Zénon n'est pas seulement un lieu de pêche, elle dispose aussi d'un observatoire. Donc, tout indiqué. Parc Nature Éco Odyssée à Wakefield, en Outaouais. Ce parc éco-touristique, situé dans un grand marécage, est connu pour proposer différentes aventures au milieu d'un labyrinthe d'eau qui compte un total de 64 intersections réparties sur 6,4 km. Une expérience attestée en planche à pagaie, en kayak, en canot ou en pédalo. Et notamment pendant les Perséides, pendant 2 heures. En dernier, le Mont Cosmos à Saint-Elzéar, Chaudière-Appalaches. Situé au cœur des Appalaches, à moins d'une heure de Québec, le Mont Cosmos est un lieu idéal pour admirer le ciel étoilé, loin de la pollution lumineuse. Son observatoire, ouvert depuis plus de 40 ans, accueille autant les astronomes amateurs que les curieux. Et le 8 août, là, c'est passé, il y a un événement gratuit qui a souligné les Perséides avec des observations du ciel et du soleil en journée. Alors voilà.
Oui, et tu sais, on parle de pollution lumineuse. Je ne sais pas si tu as remarqué, de plus en plus, les lampadaires ont des espèces de rebords qu'on met pour ne pas envoyer de la lumière dans le ciel.
Ah!
Parce que là, il faudrait vraiment que je ne veux pas parler au travers de mon chapeau, mais il me semble que ça nuit aussi à certaines espèces d'oiseaux. Parce que lorsqu'il vole la nuit.
Ah ouais.
Puis et aussi, ben ça nuit aussi au cycle de sommeil de certains animaux. Alors maintenant, puis on voit de plus en plus que l'éclairage est plus ciblé. Moi, je vois ça dans les rues aussi. C'est plate parce qu'on a besoin de lumière pour être en sécurité aussi en même temps. Hein, tout ça est compliqué. Ben, on va aller au bref, mais pas tout de suite. On va se permettre une petite chanson qui va parler des étoiles filantes. Ah, puis une dernière chose, oui.
C'est que dans le TV Hebdo, il y avait aussi « À quand remonte la plus vieille éclipse solaire observée? »
Oui.
Des astronomes indiens et japonais ont récemment découvert que le Rig Veda, un texte sacré hindou, décrivait une éclipse qui s'est produite il y a plus de 6000 ans.
Wow.
Avant cela, il y a la plus vieille éclipse rapportée, décrite dans un texte chinois, remontée à 3200 ans.
Alors, celle de Tintin, là, lorsqu'il se retrouve dans le temple du soleil et qui évoque le soleil parce qu'il y a une éclipse. Ouais, quelle belle coïncidence. T'as arrangé avec le gars des vues, ça.